Bien, je vous remercie d'avoir affronté le froid pour arriver jusqu'ici pour les deux dernières séances de l'année, année universitaire s'entend. Je vous avais laissé la dernière fois en dehors de la tempête de neige sur l'échec de la force multinationale au Liban, ce qui conduit à son évacuation au début de 1984 et sur la dissidence palestinienne qui conduit aux événements de Tripoli, et la seconde évacuation de Yasser Arafat, suivie d'une première tentative de négociation entre Arafat et le roi Hussein, qui n'a rien donné. Mais Arafat, à ce moment-là, récupère ses positions en se rapprochant de la gauche palestinienne, FPLP, FDLP, Parti communiste, qui prennent leur distance avec la dissidence. Ceci grâce à la médiation de l'Algérie. Donc on condamne les projets de liquidation impérialo-sioniste visant la cause palestinienne, dont notamment les accords de Camp David, le projet de l'autonomie civile et le plan Reagan. Mais grâce à cette prise de position relativement radicale, Arafat peut ensuite aborder directement la question de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens sous les auspices de l'ONU. Ainsi, il a beau jeu de montrer que ce n'est pas lui, mais les Israéliens qui refusent de négocier. Il est en train de transformer le traditionnel refus arabe en refus israélien. Et ceci est évidemment le grand changement politique du milieu des années 1980. Le 27 juin 84, après une réunion à Aden, le Fatah arrive ainsi à un accord avec les organisations de la gauche palestinienne, toujours sur un ton relativement radical, mais le gain essentiel pour Arafat, c'est qu'il a maintenant les moyens de réunir un nouveau congrès national palestinien et donc de démontrer sa légitimité. Alors, parallèlement, le gouvernement israélien d'Isaac Shamir perd sa majorité à la Knesset le 22 mars, d'où la décision de procéder à des élections anticipées fixées au 23 juillet. Comme il se doit, les partis politiques israéliens doivent désigner leur tête de file, puisque c'est un scrutin de liste. Et du côté de la droite, Shamir l'emporte sur Ariel Sharon avec 56% des mandats contre 42%, mais ces 42% montrent l'importance quand même de la popularité de Sharon dans les milieux du Likoud. Dans le mouvement travailliste, Rabin passe un accord avec Peres. Il ne se pose pas en compétiteur de Shimon Peres et en échange, Peres s'engage à lui confier le ministère de la Défense au cas où les travaillistes reviendraient au pouvoir. Donc Peres est la tête de file de mouvement de la gauche. La proximité des élections israéliennes et américaines et la perte de crédibilité américaine dans la région interdisent de toute façon toute perspective immédiate d'évolution politique. Sagement, le 18 mai, Donald Rumsfeld a mis fin à sa mission d'émissaire présidentiel pour le Moyen-Orient et on ne trouve pas nécessaire de lui désigner un successeur. Dans les territoires occupés, Là, c'est évidemment Moshe Arendt en tant que ministre de la Défense qui en a la charge. Bien que courtois et civilisé, Arendt, par rapport à Ariel Sharon évidemment, Arendt est en fait aussi radical que son prédécesseur. Dans son discours, les territoires ont été libérés et appartiennent à Israël, qui pour l'instant les administre avant d'y exercer la pleine souveraineté. À long terme, les habitants deviendront des citoyens d'Israël ou des résidents étrangers disposant de la citoyenneté d'un autre pays arabe. Les Juifs ont le droit de s'y installer à condition de respecter les lois d'Israël, qui est un État démocratique appartenant pleinement à l'Occident et défendant ses valeurs. Les terroristes interdisent aux modérés arabes de s'exprimer. Aussi, tant que ces conditions demeurent, il est impensable de procéder à des élections. Tout en faisant des références formelles aux accords de Camp David, contre lesquels il avait voté, Arendt ne veut pas d'une quelconque autonomie palestinienne, même menée par des collaborateurs d'Israël. De façon générale, de toute façon, Arendt s'est surtout accaparé par le dossier libanais et laisse ses militaires administrer les territoires. On a donc dans cette période la réduction des compétences de l'administration civile désignée par Sharon et un retour des compétences aux militaires qui gèrent les territoires. Et les ligues de villages qui perdent leur soutien du côté israélien voient leur influence décliner rapidement. Qu'on soit pro-jordanien ou pro-LP dans les territoires, l'urgence est ressentie face au progrès de la colonisation israélienne. Et donc, les représentants des territoires poussent absolument à la reprise du processus de paix. Ainsi, une délégation de 31 notables se rend à Amman le 29 février 1984 et rencontre Arafat pour le pousser à négocier avec Israël. Arafat leur répond qu'il est prêt à reconnaître la résolution 242 si Israël s'engage à se retirer sur les lignes du 4 juin 67, mais qu'il refuse de laisser le roi Hussein négocier au nom des Palestiniens. Les Israéliens ont laissé passer cette affaire probablement par inadvertance et, dans la foulée de l'événement, ils interdisent tout nouveau contact entre les notables de Cisjordanie et les représentants de l'ONP. Durant cette même période, l'interdiction des financements arabes extérieurs conduit à une réduction drastique des investissements dans la région et du développement des infrastructures, puisque l'administration israélienne se contente d'assurer le maintien de l'ordre. Des savants calculs ont montré que la pression fiscale israélienne sur les territoires est plus élevée qu'en Israël même et que, du point de vue de l'économie israélienne, l'administration est bénéficiaire sur le plan financier. Le gouvernement israélien s'oppose même à des financements externes européens ou américains. Dans la même période, toujours, comme on l'avait signalé la dernière fois, nous avons le contre-choc pétrolier. Et le contre-choc pétrolier, évidemment, se traduit par une diminution des transferts financiers venus des émigrés dans le Golfe. En conséquence, le niveau de vie des territoires commence à baisser au milieu des années 1980, ce qui introduit une dépendance accrue envers le marché du travail israélien. Alors, la violence est montée maintenant à un niveau assez élevé dans les territoires. Ça se traduit en général par des jets de pierres contre les voitures des colons, ce qui amène une répression israélienne, couvre-feu et autres mesures du même genre. Les fermetures d'écoles et d'universités ne font que radicaliser la jeunesse. Par ailleurs, les Israéliens harcèlent systématiquement les institutions culturelles, puisque dans cette région du monde, la culture ne peut que renvoyer au nationalisme. Une attaque de Palestiniens venue du Liban le 2 avril 1984 à Jérusalem fait 47 blessés et un mort israélien. L'un des fédayines est tué et deux autres appréhendés. L'opération est revendiquée par le FDLP d'un côté, par Hamoud Idal de l'autre et par Arafat en troisième, comme vengeance pour Sabra et Shatila. Les Israéliens considèrent que c'est la revendication du FDLP qui est la plus sérieuse et donc bombardent les bases du FDLP au Liban. Le discours des colons est d'imposer une main de fer pour contrôler les actions des Palestiniens. Si l'armée n'est pas capable, ils sont prêts eux-mêmes à exercer le maintien de l'ordre dans les territoires. Attaché à son discours d'état de droit, Arendt refuse cette solution, mais en pratique, les colons sont autorisés à utiliser leurs armes pour des situations d'autodéfense. Par ailleurs, les colons étant en général rattachés à la défense territoriale, ils sont armés et exercent à ce titre la police, ce qui fait que le plus souvent, les actions de représailles des colons sont tolérées par l'armée ou par la police. On a une situation d'impunité pour ce genre d'acte qui est reconnu par un rapport officiel israélien publié en 1984, ce qui montre que le légalisme de Moshe Arendt ne s'impose pas de façon concrète sur le terrain. Une série d'affaires au-delà des affrontements quotidiens le démontre. Le 12 avril 1984, quatre Palestiniens détournent un autobus sur la bande de Gaza. Le véhicule est immobilisé et les preneurs d'otages exigent la libération de 500 prisonniers palestiniens. Dans la nuit, une unité d'élite israélienne prend d'assaut l'autobus. Deux soldats palestiniens et un soldat israélien sont tués. Les deux Palestiniens rescapés sont passés à tabac puis achevés à coups de pierre sous ordre du commandant de Shin Bet, c'est-à-dire du service de sécurité israélien. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit, mais des journalistes israéliens ont été témoins du fait que les deux hommes n'étaient pas morts lors de l'attaque et qu'ils ont été faits prisonniers, contrairement à la version officielle des militaires israéliens. L'information est censurée par l'armée. On a à ce moment-là le circuit habituel. Les journalistes israéliens font passer l'information à la presse étrangère qui la publie. Et donc ensuite, les Israéliens peuvent en faire état. Et comme on monte la photo des gens vivants au moment de leur capture, la preuve est faite. Arendt s'est obligé de mettre sur pied une commission d'enquête, alors que dans son discours, il avait dit plusieurs reprises avant les événements que les terroristes doivent savoir qu'aucun d'entre eux ne sortira vivant d'acte. Alors, parallèlement, le Shin Bet a enfin réussi à démanteler l'organisation clandestine de colons qui menait des attentats contre les élus palestiniens, la population arabe et les lieux de culte chrétiens et musulmans. Le 27 avril 1984, ils sont arrêtés en flagrant délit d'avoir posé des explosifs dans 6 autobus arabes afin de provoquer le plus grand nombre possible de victimes. Il ne manifeste aucun remords et se proclame être des combattants de la liberté et des patriotes israéliens dans la ligne de combat d'un Begin ou d'un Shamir dans les années 1940. Leur aspiration est nationaliste religieuse et leurs actes ont eu l'approbation préalable de rabbins. La police ne réussira pas ou ne cherchera pas à déterminer lesquels. Dans l'ensemble, les juges se montreront indulgents et les peines prononcées seront bien plus légères que celles infligées à des Arabes pour des actes équivalents. Shamir déclara que ce sont d'excellentes personnes qui ont commis seulement des erreurs. La plupart des condamnés seront graciés les années suivantes. Les condamnations à des peines de prison à perpétuité seront réduites à 6 ans dans le côté effectif des choses. Autre parallèle plus intéressant pour l'avenir aussi, c'est le 15 juin, une perquisition de l'armée israélienne au domicile du cheikh Yassine dans une mosquée à Gaza. Les militaires israéliens y trouvent quelques dizaines d'armes d'assaut. On devine que les frères musulmans ont commencé à s'organiser en cellules secrètes. Le cheikh Yassine est condamné à 13 ans de prison et ses hommes reçoivent des peines allant de 12 à 9 ans de détention. Pour leur défense, ils ont expliqué qu'ils avaient acquis des armes pour assurer leur protection, le cas échéant, contre les militants du Fatah et de la gauche palestinienne. Les peines sont considérées comme légères du fait que les armes n'ont pas servi et d'ailleurs, les militants du frère musulman et le cheikh Yassine lui-même seront assez rapidement libérés car les Israéliens considèrent encore à cette époque que les frères musulmans, donc la matrice du Hamas d'aujourd'hui, sont plutôt utiles face aux nationalistes palestiniens. Alors la campagne électorale israélienne semble indiquer que les travaillistes vont revenir au pouvoir vu la situation économique désastreuse du pays. L'inflation est maintenant à un rythme annuel dépassant les 400%. Et la guerre du Liban est un échec patent. Et les premiers sondages confirment ce sentiment. Au Liban, les fonctionnaires israéliens du bureau de liaison israélo-libanais ont été capturés le 1er mai par des soldats syriens. Ils auraient passé par inadvertance en secteur syrien en faisant du tourisme. Ça conduira à une négociation menée par le CICR qui aboutit le 28 juin à un échange de prisonniers entre la Syrie et Israël, le premier depuis 1974. 291 prisonniers de guerre syriens, dont 23 officiers et 23 civils du Golan qui avaient tenté de réintégrer leur foyer, sont échangés contre 6 prisonniers israéliens. Les trois faits en 1982 et trois dans l'affaire de 1984. On y échange aussi des dépouilles mortelles, celles de 5 Israéliens contre celles de 72 Syriens. Dans le système des échanges du Moyen-Orient, les cadavres sont maintenant devenus une monnaie courante des deux côtés. Et Shamir doit faire face à l'accusation de refus israélien, puisque maintenant on a inversé la problématique. Et il doit reconnaître, le 6 mai 84, « Si nous négligeons toute la rhétorique qui émane des capitales arabes, j'ai la conviction que lentement mais sûrement les pays arabes commencent à admettre l'idée d'un arrangement et d'une coexistence avec Israël. La question à l'ordre du jour est de savoir quel moyen sera utilisé dans cet objectif. Je suis certain qu'ils opteront dorénavant pour une confrontation politique avec nous. C'est certainement de loin préférable à la confrontation militaire. Mon impression est qu'il y a désormais un progrès. » Mais le consensus de la classe dirigeante israélienne, de droite comme de gauche, est qu'il n'est pas question de négocier avec l'ONP. Les propositions d'Arafat sont vues comme des exercices de pure propagande. En ce qui concerne la Syrie, la priorité est donnée au dossier libanais. Les travaillistes affirment qu'ils trouveront des interlocuteurs palestiniens n'appartenant pas à l'ONP grâce aux bons offices de l'Égypte et de la Jordanie, ce qui correspond largement à prendre ce désir pour des réalités. Les ouvertures israéliennes du côté de Damas reçoivent une réponse ferme de Hafez al-Assad. Le retrait israélien du Liban doit aller jusqu'à la frontière internationale. Ce sera ensuite au gouvernement légal libanais d'assurer qu'il n'y a pas d'acte hostile à partir de territoire libanais contre Israël. Le statut de l'armée syrienne au Liban est du domaine des compétences exclusives des gouvernements libanais et syriens, donc il n'a pas à être conditionné au retrait israélien. La réponse de Moshe Arendt est qu'Israël ne se retirera pas du Liban avant que les Libanais du Sud ne coopèrent dans la prévention des attaques. Aussi longtemps qu'il y aura des attaques au Liban, dit-il, nous ne nous retirerons pas. Alors, ce dialogue entre Damas et Israël passe par déclaration de presse, tandis que dans la zone occupée du Liban, la sale guerre se poursuit. Les soldats israéliens vivent dans un état permanent d'insécurité et se comportent avec une extrême brutalité envers la population. On pratique systématiquement la torture dans les différentes prisons et camps d'internement dont l'existence est officiellement niée. Le camp d'Al-Ansar est rouvert dès le 12 décembre 1983, mais là, la situation est meilleure puisque le CICR a la possibilité de faire des visites à Al-Ansar. La question d'un nouveau retrait israélien est renvoyée au-delà des élections israéliennes. Et le gouvernement libanais, nous le verrons parallèlement, ferme le bureau de liaison avec Israël, ce qui amène en réplique pour les Israéliens de rendre plus difficile le contact, le passage entre la zone occupée et le reste du Liban. L'affaire du 12 avril, l'exécution des deux terroristes arabes, fait éruption dans la campagne électorale. Outre la question de principe, il s'agit d'une violation d'une règle de conduite pragmatique. Ne pas tuer des prisonniers est une incitation à se rendre pour des affaires similaires et il y a un risque de représailles sur des soldats israéliens. Les travaillistes ne réussissent pas à maintenir leur avantage de départ dans la compétition électorale. Pérez ne veut pas effrayer les électeurs et reste vague sur l'indispensable austérité destinée à briser l'inflation. Ses projets sur le Liban et les territoires occupés n'apparaissent que comme des atténuations de ceux de la majorité sortante. Le débat interne israélien se pose plus sur la question du rôle des religieux dans la société israélienne, et la droite est mieux placée que la gauche du point de vue des religieux, la gauche ne voulant pas apparaître comme des acteurs d'une lutte laïque anti-religieuse. Le point fort de Pérez, par contre, c'est son discours économique et technocratique. Il veut orienter l'économie israélienne vers les hautes technologies, ce qui est d'ailleurs l'évolution en cours dans cette période en Israël. La tonalité essentielle du discours de Shamir est la défense de l'intégrité de la terre d'Israël que les socialistes seraient prêts à brader. Son point fort est la défense des intérêts des Juifs originaires des pays arabes que les socialistes ont trop longtemps méprisés. Dans la région, dans le Golfe, les Irakiens s'en prennent aux installations pétrolières iraniennes en particulier les terminaux et les bateaux pétroliers. C'est ce qu'on appelle à l'époque la guerre des pétroliers ou la guerre du pétrole au sens strict du terme, puisque la stratégie irakienne est aidée par la France, qui fournit des avions, et de détruire l'infrastructure pétrolière iranienne. L'Iran réplique en menaçant les monarchies arabes de leur interdire d'exporter à leur tour du pétrole, et les États-Unis rappellent qu'ils sont les protecteurs des monarchies pétrolières arabes. Donc, les Américains intensifient les livraisons d'armes à destination de l'Arabie saoudite, ce qui provoque le mécontentement des Israéliens. Mais dans la campagne électorale américaine, les deux grands partis rivalisent de déclarations favorables à Israël, en particulier chez les démocrates. En fin de campagne israélienne, Shamir prend l'avantage en annonçant la création de nouvelles colonies de peuplement dans les territoires occupés, puis en faisant le thème de la nécessité d'un gouvernement d'union nationale. Peres croit pouvoir l'emporter grâce au premier débat télévisé de l'histoire d'Israël, mais Shamir réussit à donner une impression rassurante de solidité. Les élections du 23 juillet 1984 sont une forte déception pour le mouvement travailliste. Sur les 120 sièges de la Knesset, les travaillistes n'en obtiennent que 45 contre 41 au Likoud. Les progrès des petits partis, 35 sièges contre 25, marquent le glissement à droite de l'électorat israélien. L'extrême droite obtient 6 sièges, dont un pour le mouvement raciste du Kash, du rabbin Kahan. Les partis centristes 10. La nouveauté vient plutôt du côté des religieux, qui ont 13 sièges, dont 4 pour un nouveau parti, le Chasse, qui représente les juifs orientaux orthodoxes, religieux. Les 6 sièges des partis dits progressistes représentent essentiellement l'électorat arabe. De ce fait, on peut considérer que les partis nationalistes et religieux, 60 sièges, représentent la majorité de l'électorat juif. Et c'est lié en partie à l'aversion des juifs orientaux envers les travaillistes. Shimon Peres tente de former une coalition gouvernementale avec les petits partis, mais se heurte aux revendications radicales des partis religieux. Donc, il doit accepter la formule de l'union nationale, mais il est difficile de s'entendre sur la question des colonies et d'un accord avec la Jordanie. En revanche, le principe d'un retrait définitif du Liban est accepté. On arrive finalement à un accord de gouvernement le 31 août pour une durée de 50 mois. Les 25 premiers mois, Peres sera Premier ministre et Shamir ministre des Affaires étrangères. Puis, les 25 mois suivants, ils échangeront leurs fonctions. Donc, Shamir deviendra Premier ministre et Peres, ministre des Affaires étrangères, ce qu'on appelle la rotation. Perabin, en revanche, conservera pendant toute la durée de la mandature le poste de ministre de la Défense, le Likoud conservant, lui, le ministère des Finances. Il faut encore plusieurs jours pour finaliser l'accord de gouvernement et répartir les ministères. Et c'est le 13 septembre, le nouveau gouvernement reçoit l'investiture de la Knesset par 89 voix contre 18 et une abstention. Le roi Hussein, lui, appelle à la convocation d'une conférence internationale dans laquelle les Palestiniens seraient représentés, mais sans préciser par qui. Le 27 septembre, il rétablit les relations diplomatiques entre la Jordanie et l'Égypte en violation des résolutions du sommet de Bagdad. Il justifie cette décision au nom de la nécessité de rétablir la cohésion des rangs arabes. Les pays arabes dits modérés critiquent cette décision plus pour sa forme, absence de concertation, que sur le fond. Pendant ce temps-là, Arafat, lui, travaille à réunir un Conseil national palestinien. Il a le soutien de Saddam Hussein, tandis que la Syrie tente de s'y opposer. Et la Syrie obtient de l'Algérie que le futur Conseil national ne se fasse pas en Alger. Alors, le Fatah laisse entendre que la réunion pourrait avoir lieu sur un bateau ancré dans un port grec, mais en fait, la Jordanie et l'Irak proposent leur service. Au Liban, Pierre Gemayel meurt le 29 août 1984 à l'âge de 79 ans, ce qui affaiblit considérablement la position de Amin Gemayel, puisque son père, le patriarche politique, n'est plus là pour assurer la cohésion entre les phalanges et les forces libanaises. La Syrie est d'autant plus l'arbitre du jeu politique que les coalitions à l'est comme à l'ouest sont particulièrement instables, les milices d'un même camp n'hésitant pas à s'affronter par les armes pour le contrôle d'un territoire ou d'une ressource. La stratégie syrienne est d'essayer de reconstituer l'État libanais à son profit en mettant Amin Gemayel sous sa tutelle et en imposant la fameuse réforme constitutionnelle dont on parle depuis 1975. La réunification du pays passerait par l'établissement successif d'arrangements de sécurité où l'armée libanaise de Michel Aoun jouerait le rôle de force d'interposition. Mais les Syriens se heurtent à leur tour aux forces de destruction qu'ils ont déchaînées contre les Israéliens et les Américains. Jumblatt et Be'eri se montrent hostiles à toute restauration de ce qu'on appelle le maronitisme politique et ne veulent pas entendre d'un retour de l'autorité de l'État dans les régions qu'ils contrôlent. De surcroît, la monnaie libanaise, stable depuis le début de la guerre civile, est maintenant entrée dans un processus de dépréciation continue, faisant disparaître l'épargne d'une bonne partie de la population. L'absence de gouvernement réel est l'un des facteurs de cette dévaluation continue, mais on l'attribue aussi au départ des Palestiniens de l'ONP qui géraient des sommes importantes. Au-delà, évidemment, c'est aussi une des conséquences du contre-choc pétrolier, avec une diminution des apports financiers venant des pays du Golfe. Pays du Golfe dont les ressources financières sont de plus accaparées par la guerre Irak-Iran. Le Hezbollah, dont le programme explicite est d'établir une république islamique, a profité des événements du début de l'année pour s'implanter à Beyrouth-Ouest et renforcer ses activités au sud. Pour avoir le schéma, si vous voulez, on peut considérer que le noyau historique de Hezbollah était plutôt dans la Bekaa, dans la région de Baalbek, et puis ils ont glissé sur Beyrouth, et maintenant, ils commencent leur descente vers le Liban sud. La relation entre le Hezbollah et la Syrie est très complexe. D'abord, il faut rappeler que le Hezbollah est un mouvement, à ce moment-là, totalement clandestin. Ça intègre à la fois la scène politique libanaise et les relations entre la Syrie et l'Iran. Damas encourage le Hezbollah, partenaire efficace, à lutter contre Israël, mais s'oppose à la contestation de l'État libanais par le parti de Dieu. L'allié privilégié de Damas, c'est Amal de Nabi Berri, qui s'inscrit pleinement dans le projet d'hégémonie syrienne. On voit cette division entre Amal et Hezbollah très clairement dans les premiers dossiers d'otages occidentaux au Liban. Pour le Hezbollah, ces prises d'otages ont pour but de faire pression sur les Occidentaux, qui à leur tour doivent faire pression sur le Koweït, qui a condamné à mort des militants d'Al-Darwa après les attentats dans l'Émirat. Les Syriens agissent par Amal interposé pour faire libérer les otages. De même, à chaque contestation de la politique syrienne par le Hezbollah, la Syrie répond par des pressions militaires dans la Bekaa. Mais chacune des deux parties sait jusqu'où on peut aller. Il y a des limites, des lignes rouges entre le Hezbollah et la Syrie que les deux forces se refusent de passer. La relation entre la Syrie et l'Iran est vitale pour les deux intéressés. L'importance accordée par l'affaire du Koweït est révélée par un détournement aérien sanglant d'un avion de la Kuwait Airways le 4 décembre 1984. L'avion à destination du Pakistan et transportant surtout des travailleurs immigrés de ce pays est détourné sur l'aéroport de Téhéran. Deux passagers américains sont assassinés. On exige la libération des militants islamistes arrêtés au Koweït, mais l'émirat se montre ferme. Les passagers sont progressivement libérés et finalement les autorités iraniennes, qui ont montré une grande complaisance envers les preneurs d'otages, mettent fin par une opération de commando à ce détournement qui a duré 6 jours. Plusieurs passagers américains et koweïtiens ont été brutalisés et on ne retrouvera pas, enfin officiellement on mettra en procès les gens qui ont détourné l'avion, mais cette affaire disparaîtra rapidement de l'actualité. La commémoration du deuxième anniversaire des massacres de Sabra et Shatila, le 17 septembre 1984, montre la virulence des clivages libanais. La manifestation venue des camps regroupe 10 000 personnes, encadrées par des militants de la gauche palestinienne et par le Fatah. On y défend la représentativité de l'OLP et l'unité palestinienne, et on célèbre la résistance contre les forces d'occupation. Tout ça démontre l'importance de l'implantation des arafatistes à Beyrouth. Mais les dissidents pro-syriens et le mouvement Amal travaillent à limiter cette résurgence du Fatah. Et en même temps, chez les Palestiniens, émerge un nouveau courant islamiste qui condamne la gauche marxiste et appelle au djihad contre Israël et les croisés. Là, on a vraiment un thème venu du pire de l'intégrisme sunnite, qui jusque-là était un thème, la lutte contre les juifs et les croisés, qui était plutôt réservé à des franges extrêmes du mouvement politique sunnite dans la région, en particulier Hizb ut-Tahrir. Mais maintenant, ce discours commence à prendre racine dans certains secteurs des populations sunnites du Liban et du Proche-Orient. C'est dans ces mouvances que s'installeront progressivement ce qu'on appelle les djihadistes et qui donneront naissance dans les années 1990 à Al-Qaïda et autres mouvements de ce genre. Mais on peut situer leur émergence sur le terrain au Proche-Orient vers 1984-1985. Dès son accession à la fonction de ministre de la Défense, Rabin entend bien réaliser un nouveau retrait du Liban en assurant la sécurité des régions du nord d'Israël. L'idée illusoire est de mettre le Liban Sud sous une forme de cogestion entre la LS et la FINUL. Mais l'ONU rejette la perspective d'une FINUL renforcée qui se substituerait à l'armée d'occupation. Avec sa brutalité habituelle, Rabin tente alors d'imposer la LS dans les régions chiites. Le 20 septembre, une embuscade à proximité du village de Somor fait 4 tués dans les rangs de la LS, essentiellement des Druzes. L'armée israélienne encercle immédiatement le village et fait entrer un détachement de la LS. 300 hommes de 16 à 39 ans sont rassemblés sur la place du village. en présence de quatre officiers israéliens et du général Lahad commandant la LS, les miliciens ouvrent le feu et font 14 morts et 25 blessés. L'armée israélienne décline toute responsabilité puisque ce sont des Libanais qui sont directement responsables de la tuerie. La presse libanaise parle de son côté d'un ministre Abraham Shatila et d'une volonté israélienne de créer une guerre confessionnelle entre Druzes et chiites. Le gouvernement libanais porte plainte au Conseil de sécurité et modère son ton pour obtenir une résolution rappelant à Israël, puissance occupante, le strict respect des droits des populations civiles. Cette résolution obtient 14 voix contre 15 au Conseil, mais la 15e est un veto américain. Et les Américains, trouvant cette résolution déséquilibrée et n'apportant aucune contribution positive au règlement de la question du retrait israélien, et surtout, on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, donc il n'est pas question d'une résolution condamnant Israël. Cette identification entre la politique américaine et la politique israélienne, particulièrement forte en période électorale, favorise les agissements des pires ennemis des États-Unis. Dès le lendemain du veto américain, deux coups de téléphone à des bureaux de la presse étrangère à Beyrouth annoncent des représailles prochaines du djihad islamique. Le 20 septembre, l'annexe de l'ambassade américaine, terme politiquement correct pour dire nouvelle ambassade, en secteur chrétien, est victime d'un nouvel attentat à la voiture suicide, faisant 24 tués, dont deux Américains, opération revendiquée par le djihad islamique. Reagan a envoyé immédiatement au Liban son nouvel émissaire pour le Proche-Orient, un diplomate de carrière, Eshar Murphy, spécialiste de la région. Devant lui, le premier ministre israélien-libanais, Rachid Karameh, met sur le même plan l'attentat contre l'ambassade américaine et le massacre de Soma. Murphy continue sa tournée par Damas, Jérusalem, Amman et le Caire, annonçant donc un retour diplomatique des États-Unis. L'ordre du jour immédiat à la question du retrait israélien du Liban sur la base de garanties de sécurité. Mais on ne va pas plus loin puisqu'on est en campagne électorale américaine. Lors de son discours d'investiture, Peres avait invité le roi Hussein à ouvrir des négociations en ne mentionnant pas les accords de Camp David. Ultérieurement, Peres avait proposé à Moubarak de tenir une réunion au sommet et l'Égypte avait rejeté cette proposition tant que des progrès n'avaient pas lieu dans la question des territoires occupés et du Liban, ainsi que sur le contentieux de Taba, vous rappelez cette petite enclave que les Israéliens n'avaient pas évacuée à proximité d'Eilat. Dans le dernier dossier sur Taba, l'Égypte demande que l'on passe le plus tôt possible à la phase de l'arbitrage international prévue en cas de désaccord par le traité de paix. Israël s'indigne que le pays voisin s'accroche à un contentieux territorial aussi minime au lieu de renvoyer son ambassadeur. Mais on peut rétorquer que si le contentieux est minime, on ne comprend pas pourquoi les Israéliens y apportent autant d'importance. On avance aussi la question de la sécurité d'Eilat, mais l'Égypte réplique en proposant le stationnement de la force multinationale du Sinaï dans le secteur de Taba. Les Américains soupçonnent Israël d'accorder de l'importance à cette affaire pour montrer que le retrait israélien du Sinaï n'est pas allé jusqu'à la ligne du 4 juin et essayer d'établir un précédent. Le gouvernement Peres doit accepter la reprise le 23 janvier 1985 de pourparlers désignés comme techniques, c'est-à-dire ne portant pas sur la question de souveraineté, entre Égyptiens et Israéliens. Le roi Hussein, lui, lors de la réunion du Parlement jordanien le 1er octobre 1984, est particulièrement critique. L'appel du premier ministre israélien est un subterfuge, une tromperie. la composition du gouvernement israélien ne permet pas de prendre au sérieux les propositions de Peres. Il n'est pas question d'abandonner un iota de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La solution, c'est la conférence internationale où toutes les parties seraient représentées. Peres, furieux, lui répond immédiatement « Il n'est pas question d'accepter de conditions préalables, c'est-à-dire le retrait sur les lignes du 4 juin. Sa ligne est bien dans la continuité de la politique suivie depuis juin 1967, la paix contre la paix et non les territoires contre la paix. » Le 6 novembre, Reagan remporte une victoire électorale écrasante avec 49 États sur 50, 525 mandats électoraux contre 10 et 59% des suffrages populaires. C'est un véritable raz-de-marée en faveur de l'administration Reagan. L'hypothèque des élections américaines étant levée, on peut maintenant reprendre les manœuvres diplomatiques. Peres et Rabin ont tenté d'obtenir un engagement de Damas en ce qui concerne les garanties de sécurité. Les propositions sont transmises par les diplomates occidentaux. L'armée israélienne reprendrait ses positions d'avant juin 82 et interdirait toute infiltration palestinienne. L'ALS tiendrait la zone frontalière et la FINUL, la zone intermédiaire entre l'ALS et l'armée syrienne. La Syrie rejette tout engagement de ce genre et renvoie aux discussions au gouvernement libanais. On obtient quand même la reprise de négociations techniques entre Israéliens et Libanais à Nakoura, au siège de l'ONU. Pour le Liban, ces conversations ont lieu dans le cadre de l'accord d'armistice de 1949, ce que rejette Israël, qui le tient pour caduc. Ces réunions ont été évidemment acceptées par la Syrie et par Amal, qui est chargé par la Syrie de remettre au pas l'opposition proclamée du djihad islamique, c'est-à-dire du Hezbollah. 14 séances ont lieu entre le 8 novembre 1984 et le 24 janvier 1985. C'est l'habituel dialogue de sourds. Le Liban s'en tient aux résolutions de l'ONU qui spécifient un retrait complet des Israéliens et l'établissement de la FINUL sur la frontière en liaison avec l'armée libanaise. Israël refuse toute présence de l'armée libanaise au Liban Sud, la frontière étant confiée à l'ALS, qui serait formellement rattachée à l'armée libanaise. On parle aussi d'une FINUL élargie, mais là encore, l'expérience de la force multinationale laisse douter que des pays puissent accepter de renforcer la FINUL après la catastrophe de Beyrouth en 1983. Le 10 novembre, le Fatah annonce la convocation du 17e Conseil national palestinien pour le 22 novembre à Amman. Le choix de la Jordanie marque la détermination de renforcer la coopération entre l'OLP et le Royaume hachémite dans le cadre d'un regroupement politique comprenant l'Égypte et, dans une moindre mesure, l'Irak. Le 26 novembre, les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques avec l'Irak, ce qui est un pas dans ce sens. Et c'est aussi le résultat, d'ailleurs, des négociations menées par Donald Rumsfeld, on le verra dans un autre partie du dossier, l'année prochaine, dans le dossier d'Iran Gate. Mais Rumsfeld avait essayé de pousser au maximum les États-Unis du côté de Saddam Hussein, ce qu'on lui reprochera évidemment en 2003, quand il était devenu l'ennemi proclamé de Saddam Hussein. Donc, la question du réunion du Congrès national palestinien, du Conseil national palestinien, est de savoir si Arafat va réussir à réunir le quorum nécessaire. Les anti-arafatistes tentent par tous les moyens de s'y opposer. De même pour les Israéliens, qui interdisent toute délégation venue des territoires occupés. En revanche, l'Arabie saoudite soutient fortement Arafat. Le 22 novembre, la victoire d'Arafat est claire, puisque le quorum des deux tiers est dépassé, grâce à l'addition de représentants du Fatah et d'indépendants, ainsi qu'une dissidence organisée d'un certain nombre de délégués venus d'organisations qui avaient refusé d'être présents. La radio-télévision jordanienne diffuse dans les territoires occupés les débats du CNP. Arafat, dans son discours inaugural, appelle à la réunion d'une conférence internationale et s'en prend au complot israélien tendant, je cite, à frapper la résistance palestinienne avec le concours de certaines parties arabes. Il rejette les accords de Camp David et le plan Reagan. Le roi Hussein, qui prend ensuite la parole, invite l'OLP à agir de concert avec la Jordanie pour trouver un règlement à la crise du Proche-Orient fondée sur la résolution 242 et la réunion de la conférence internationale. Les débats sont vifs, aussi bien en séance plénière que dans les réunions à huis clos des commissions. Arafat, après avoir proposé sa démission, se retrouve plébiscité. Le programme politique adopté le 29 novembre marque sa victoire. Je cite. Le Congrès national palestinien décide de poursuivre ses efforts pour réaliser l'union nationale entre toutes les factions palestiniennes et préserver son indépendance de décision. Il réaffirme son attachement aux décisions des précédentes sessions du CNP, notamment celle relative à la résolution 242, qui ne considère pas la question palestinienne comme une question de peuple ou de droit, mais comme un problème de réfugiés et qui refuse nos droits nationaux. Le CNP a pris plusieurs décisions afin d'agir au niveau arabe face à l'alliance israélo-américaine. Il a décidé de poursuivre ses efforts pour développer les relations avec la Jordanie afin de mener l'action commune pour réaliser notre unique objectif, la libération de l'homme et de la terre palestinienne, car nous, la Jordanie et l'OLP, sommes convaincus que nous avons une destinée commune sur les bases des résolutions du sommet arabe de Fès. Le CNP souhaite dans ce but une coopération avec les pays arabes. Il estime nécessaire d'œuvrer pour rectifier les relations entre l'OLP et la Syrie sur des bases claires et franches concernant la liberté de décision palestinienne sans ingérence d'une des parties dans les affaires de l'autre. Concernant les relations avec l'Égypte, le CNP a décidé d'adopter une politique prenant en compte les nouvelles données de la politique égyptienne et ceci, d'une part dans l'intérêt de notre peuple en Égypte et dans la bande de Gaza et d'autre part pour développer les relations entre les peuples égyptiens et palestinien. Donc, la ligne Arafat a maintenant la légitimation du Congrès, du Conseil national palestinien. Dans la foulée, Hussein se rend au Caire pour coordonner les actions avec l'Égypte, tandis que l'OLP rapatrie à Amman ses institutions implantées en Syrie. Le groupe Abu Nidal, qui entame une campagne d'attentats contre des diplomates jordaniens et des cadres de l'OLP, certainement commandités, des attentats par la Syrie. Ainsi, Fahd Kawasmé, maire expulsé d'Hébron, devenu membre du comité exécutif de l'OLP, chargé des territoires occupés, est assassiné le 29 décembre 1984. Arafat accuse le sionisme arabe représenté par les dirigeants de Damas. Vous voyez que le sionisme va pouvoir être utilisé maintenant à toutes les sauces dans la région. Assad répond en critiquant les comploteurs arabes, les capitulaires et les défaitistes qui cherchent à liquider la cause palestinienne en attirant les Arabes vers la politique de Camp David. Le chef de l'ENP réplique en accusant Assad de participer au complot américano-israélien visant à la destruction de la révolution palestinienne et la partition du Liban, première étape d'une balkanisation du monde arabe. Et on continue comme ça, des deux côtés, à s'injurier et à se traiter de traite. Israël refuse l'enterrement de Kawasmé dans sa ville natale, exigeant au préalable la restitution de dépouilles de 8 soldats israéliens disparus au Liban. L'armée israélienne réprime durement un enterrement fictif de protestation à Hébron. Ce qui sera plus important pour l'avenir, c'est qu'Arafat désigne Abu Jihad comme successeur de Kawasmé pour le département des territoires occupés. Et c'est à partir de cette date, sous l'impulsion d'Abu Jihad, qui est un vrai organisateur, que la Fatah est en train de se réorganiser et de se réimplanter systématiquement dans les territoires, en particulier dans la bande de Gaza, en particulier en jouant sur la jeunesse palestinienne avec le développement du mouvement des faucons du Fatah. Ceci est évidemment, vous comprenez, dans la logique qui va conduire à la première intifada, qui est l'amorce du retour du Fatah et de l'OLP dans les territoires occupés à partir du milieu des années 1980. En liaison avec l'Arabie saoudite et l'Égypte, Palestiniens et Jordaniens travaillent activement à la mise en place d'un texte commun qui doit à la fois préserver les positions arabes et entrer autant que possible dans les conditions américaines fixées par le plan Reagan. On arrive ainsi à l'accord dit du 11 février 1985, rendu public le 23 février, après son approbation par le comité exécutif de l'ONP. Je cite. S'inspirant de l'esprit des résolutions du sommet de Fès, approuvées par les pays arabes, et des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, de l'ONU pardon, sur la question palestinienne, en accord avec la légitimité internationale et se basant sur la compréhension commune pour l'établissement d'une relation spéciale entre les peuples jordaniens et palestiniens, le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et l'ONP se sont mis d'accord pour agir en commun vers la réalisation pacifique et juste du conflit du Proche-Orient et de la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes, y compris Jérusalem, sur la base des principes suivants. La terre contre la paix, selon les résolutions des Nations Unies, y compris les résolutions du Conseil de sécurité, droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Les Palestiniens exerceront leur droit inaliénable à l'autodétermination quand Jordaniens et Palestiniens seront dans la possibilité de le faire dans le cadre d'une confédération arabe entre deux États, Jordaniens et Palestiniens. Solution du problème des réfugiés palestiniens selon les résolutions des Nations Unies. Solution de la question palestinienne sur tous ses aspects. Sur cette base, des négociations de paix auront lieu dans le cadre d'une conférence internationale à laquelle participeraient les 5 États membres du Conseil de sécurité ainsi que toutes les parties prenantes au conflit, dont l'OLP, représentant légitime et unique du peuple palestinien dans le cadre d'une délégation commune. Donc l'accord du 11 février définit maintenant un projet de solution sur une base d'une conférence internationale dans lequel il y aurait une délégation commune jordano-palestinienne et le principe de négociation étant les territoires contre la paix. Et la question pendante est celle de l'avenir en quelque sorte, puisqu'à la fois on parle d'un État palestinien et d'une confédération jordano-palestinienne. Le roi Fahd d'Arabie saoudite en visite aux États-Unis se fait immédiatement l'avocat de l'accord du 11 février. La réaction américaine, elle, est prudente. Toute volonté de réaliser un règlement pacifique du Proche-Orient constitue un pas en avant à condition qu'une telle solution soit obtenue par des négociations directes basées sur la résolution 242 du Conseil de sécurité. Si les discussions qui viennent se dérouler dans la capitale jordanienne s'inscrivent dans ce cadre, elles sont les bienvenues. On se retrouve ainsi dans la problématique traditionnelle de l'interprétation de la résolution 242, avec tous les pièges sémantiques qu'elle représente. Elle ne mentionne pas de négociation directe, la résolution 242, et le terme « basé » renvoie plus à son esprit supposé qu'à son contenu réel. Pour les parties arabes, l'accord comprend bien la résolution 242, mais aussi toutes les autres du Conseil de sécurité qui définissent comme illégale la colonisation des territoires occupés et la modification du statut de Jérusalem, ainsi que les résolutions du Conseil de l'Assemblée générale qui comprennent le droit au retour des réfugiés palestiniens et le droit à l'autodétermination des Palestiniens. En revanche, le discours américain reste sur la 242 sans mentionner les autres résolutions, y compris les autres résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est sur cette base diplomatique que nous allons faire la pause, puisque l'heure d'enregistrement est terminée, puisque je dépends de séquences d'une heure pour l'enregistrement.